France Culture.
Attention, certains propos que vous allez entendre peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Afin de préserver l'anonymat de certaines personnes, leurs voix ont été modifiées et leurs prénoms masqués.
Bonjour chef, comment ça va? Ça fait un gros dodo? Oui. On se réveille? Ouais. Bonjour chaton. Ça va? Très bien dormi? Oui. Ça fait un gros dodo? Tu peux allumer la lumière? Ouais. Attention. On se réveille? Bonjour toi, ça va choupette?
Protection de l'enfance. Des histoires du quotidien.
On va aller changer la couche, on va s'habiller. Oui.
Troisième épisode, grandir ailleurs.
Ah, ça devient.
Oui. Xavier Nau, Thomas Duterre.
C'est bon, on enlève la couche.
Lorsque les enfants sont trop en danger dans leur famille, le juge peut ordonner un placement.
C'est dur, hein ? T'enlèves la couche, ma belle.
En France, plus de la moitié des enfants bénéficiant de mesures d'aide sociale à l'enfance sont placés en dehors de leur famille.
Tiens, tu mets la culotte ? Tu mets la culotte ? Ah, c'est moi qui mets ?
Parmi les lieux d'accueil, il y a les MEX, maisons d'enfants à caractère social. Ce matin, le groupe des petits se réveille avec Alexia, éducatrice spécialisée.
Je vais prendre les chaussons.
Agathe, elle est en bas. Tu peux descendre et aller prendre le petit déjeuner, d'accord? Laisse ton regard, baisse le pied. Okay, tu vas voir Agathe?
L'objectif, une fois qu'ils sont ici, c'est quoi?
C'est de leur apporter un cadre sécure, puisque souvent il y a des carences éducatives, des carences de soins.
Karine Rivière, chef de service.
Donc du coup, c'est d'apporter tout ce qu'ils n'ont pas eu à la maison, parce que souvent ils grandissent dans des dysfonctionnements familiaux. Donc voilà, c'est leur apporter un cadre sécurisant pour qu'ils puissent grandir en tant qu'enfants et pas s'occuper, avoir des préoccupations d'adultes, parce qu'on voit souvent que les enfants, ici, ils ont des préoccupations d'adultes parce qu'ils sont amenés aussi à se débrouiller un peu tout seuls. Donc, alors c'est un peu moins fréquent chez les petits, mais voilà, il y a des grosses carences. Donc il y a tout ce qui est le soin à travailler, l'hygiène, la scolarité. Enfin voilà, c'est, on apporte un cadre familial, mais en collectivité.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe quand un enfant arrive?
Alors, dans le cas le plus idéal possible...
Alexia, éducatrice spécialisée.
On a des demandes d'admission de la part de la ZEU. Donc on reçoit clairement un rapport avec un écrit qui détaille un petit peu l'histoire de l'enfant, les faits qui peuvent conduire à une demande d'OPP. Et le rôle de notre direction, c'est d'évaluer aussi, si clairement on a de la place au sein de notre structure et au sein du groupe à amener à accueillir l'enfant en fonction de son âge, et si sa problématique, la problématique familiale, peut être accueillie dans notre groupe aussi. Un groupe où il n'y a que des enfants avec une problématique d'inceste, mais accueillir un autre enfant avec cette problématique, c'est pas forcément évident non plus, parce que c'est pas facile à travailler. Donc, dans le meilleur des cas, on sait en amont qu'on peut accueillir un petit garçon de 8 ans, par exemple, parce qu'on a la place qui va avec. Et donc, on peut préparer son arrivée. On peut préparer la chambre, on met une serviette, on choisit un doudou que nous, on va pouvoir estimer plus ou moins adapté. L'enfant peut visiter la structure en amont, prendre un peu ses repères, découvrir certaines têtes des éducateurs. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Ce qui arrive la plupart du temps aussi, c'est des placements d'urgence, c'est des enfants qui ont été récupérés à l'école par une référente ASE ou la police, même des fois ça arrive. Et là, effectivement, on accueille des enfants qui étaient allés à l'école le matin et puis qui se retrouvent placés parce qu'un juge a décidé que le placement devait se faire en urgence. On a un stock de vêtements, clairement, de doudous, de choses comme ça qui nous permettent d'accueillir des enfants qui n'ont pas de vêtements, qui arrivent dans des situations... compliqué, et là on accueille de la tristesse. Après, c'est des enfants qui vont être un peu ébahis de ce qui leur arrive, donc c'est dans les jours qui suivent l'accueil de ces enfants où on peut commencer à discuter un petit peu.
Et les autres enfants qui sont déjà présents sur le groupe, quand un enfant arrive, ça se passe comment?
Alors ici, souvent, quand on, donc pareil, quand on sait qu'un enfant va arriver, donc on le prépare aussi au niveau des autres enfants. Il y a, voilà, je reprends l'exemple du garçon. Il y a un petit garçon, il s'appelle comme ça, il a 8 ans, il va arriver tel jour. Donc on prépare, on compte les jours. Souvent, la plupart des enfants sont contents d'accueillir un nouvel enfant. Ils vont faire en sorte de lui trouver des jouets, de lui trouver une place, de lui expliquer les règles, de comment ça marche. Donc c'est plutôt il y a plutôt une solidarité qui se crée assez facilement entre eux.
C'est quoi, moi, je choisis H, là? On est le 25.
On est passé.
Ouais. Là,
je choisis le 22.
Et j'ai même pas choisi.
Merci.
C'est Agathe. C'est d'où le gel, tu sais?
Ah oui, il est là.
C'est pas le gel, ça, les garçons, c'est un masque pour les cheveux aussi.
Oh!
Donc tu sais pas?
Non.
Ok.
Bah,
ah, mais si, l'ouvert. C'est toi qui fais ou c'est moi?
C'est toi.
Tu viens?
Ok.
Ça va, je vais vous la... Tu te coiffes tout seul?
Bien sûr, ça.
Ah, mais j'en ai plein les mains déjà. Regarde, je mets dans tes cheveux et après, toi, tu fais avec la brosse, avec le peigne, d'accord?
Est-ce que lui colle?
Un petit peu, ouais.
Alexia.
Oui.
J'y vais à pied.
Comme tu à pied, c'est plus simple quand même, parce qu'il va y avoir trop de voitures pour se garer, ouais.
C'est ce qui me semblait.
Merci. Faut que tu partes à 8h. Faut que tu partes là, 8h10. Okay. Non, tu m'as demandé du parfum. Alors déjà, on va mettre du parfum. C'est bon, regarde, va dans la glace. Va voir dans la glace si tu veux. Tu mets?
Toi.
Moi, je mets? Dans les cheveux aussi? Ok, mets la tête droite. C'est bien comme ça? Doucement, doucement, doucement. Doucement, enlève tes doigts de là.
On vous a vu préparer des petits-déj, brosser des dents, préparer des traitements, donner des traitements. Là, c'est atelier coiffure. Tout ça, ça prend.
Sur le tard. Être éduque, c'est être, en protection de l'enfant, c'est être multitâche. Je suis médecin parce que je fais de la bobologie. Je suis psychologue parce que des fois, ça va pas. Je suis taxi parce qu'il faut emmener des enfants un peu à droite, à gauche. Je suis animatrice parce qu'on anime le quotidien. Je suis tout. Je fais tout. Et on apprend tout sur le tas. Et des fois, on se trompe et c'est les enfants qui nous aident. S'il vous plaît, vous pouvez mettre vos chaussures, votre pull, votre manteau. On part à l'école.
J'ai pas envie d'aller à l'école.
Mais tu n'as pas le choix.
Je crois que tu aimes bien l'école.
Dis-moi, tu t'es pas lavé les dents? C'était très rapide alors. Ouais. J'ai un doux quand même là.
Pourquoi tu aller bien dans l'école?
À demain.
semaine d'après.
Au revoir, à tout à l'heure.
À Paris, le placement familial de l'association Osez emploie et accompagne des assistantes familiales qui accueillent à leur domicile les enfants placés par décision du juge. Ce service travaille également avec les enfants et leurs familles sur les raisons du placement. Nous rencontrons Halima et Sébastien, parents de Ryan qui viennent pour une visite médiatisée.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Durant ces visites, dont les modalités sont décidées par le juge, ils peuvent voir leur enfant et échanger avec les professionnels. Halima, on est au placement familial ici. Vous êtes la maman de Ryan, un petit garçon qui a quel âge ?
8 ans.
Et qui donc est confié à l'aide sociale à l'enfance, qui est placé dans une famille d'accueil. Comment ça s'est passé pour vous ce moment du placement quand Ryan a été confié à la famille d'accueil ?
J'étais triste beaucoup parce que j'ai peur que Ryan il va m'oublier. Ben là, ça va, il ne m'a pas oublié.
Halima, vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi Ryan il a été placé ? Pourquoi le juge a décidé de le placer ?
Parce que le papa de Ryan, moi et lui, ça n'allait pas et on s'entend pas très au début, on s'entend bien et tout. Et comme j'étais enceinte, bah, le papa n'était pas content. Parce que il n'était pas content et du coup, son père ne voulait pas. Il me dit oui, je ne suis pas prête, je suis handicapée. Et je ne suis pas handicapée. Je sais me débrouiller des choses, mais. Je ne suis pas handicapée parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, je suis handicapée, tu ne sais pas l'occuper de lui et tout. » Et plus, moi et le papa, on ne s'entend pas très bien. Dès que j'ai accouché et tout, l'assistante sociale de travail et l'assistante sociale de l'hôpital, ils sont signalés à l'ASE. Je veux la psychologue, je veux la psychiatre, je veux le docteur. Ils sont tous venus... dans la chambre d'hôpital, et j'ai accouché tout, et c'est là ils sont pris la réunion. Mais j'étais pas là, moi, c'était eux, ils ont fait la réunion entre eux.
Et comment ça se passe aujourd'hui pour Ryan ? Comment vous le voyez, votre petit garçon, aujourd'hui ?
Il va bien, il me fait trop rire. C'est un clown, ce garçon, comme sa maman.
Ça fait combien de temps qu'il est en famille d'accueil, Ryan ?
Depuis l'âge de tes bébés.
Combien de fois vous le voyez, Ryan, dans la semaine ou dans
chaque
le mois ?
Chaque mercredi sur deux. Et il faut que je vienne ici avant 9h.
Pour la suite de sa vie à Ryan, comment vous voyez les choses pour l'avenir ?
Moi, je veux Ryan, dès qu'il sera grand, je ne veux pas qu'il reste là. Je veux venir, il vient voir moi. Deux fois avec moi, deux fois avec son père.
Comment ça se passe ces temps de rencontre avec Ryan ici au service, avec la psychologue ?
Ça va. Au début, je ne voulais pas la psychologue. Je n'aime pas la psychologue. Mais maintenant, ça va. Okay.
Et je me tourne vers vous, justement. Pourquoi vous êtes présente pendant ces temps de rencontre entre Ryan et sa maman ?
On est présent dans les visites médiatisées pour soutenir la parentalité, c'est-à-dire aider les parents à développer leurs compétences dans le lien avec leurs petits, et ensuite aussi rassurer l'enfant pour lui montrer qu'il peut aller vers ce parent.
Claire-Marie, psychologue.
Et ce que vous a dit Halima tout de suite, c'est qu'elle avait très peur quand Ryan était bébé, que Ryan l'oublie. Et ce qu'on voit au bout de 8 ans, c'est que Ryan, maintenant, il a développé une vraie relation avec sa maman, qu'il a du plaisir à la retrouver tous les 15 jours. Et ce que j'essaye aussi de soutenir auprès des parents, que le lien, c'est pas la fréquence, c'est pas d'y en ait beaucoup, c'est que ce soit du moment de qualité. Et c'est dans ces moments de qualité, et non pas dans la quantité, que se crée le lien qui va faire que l'enfant grandissant et devenant adulte aura toujours envie de rester en contact avec ses parents, qu'ils seront une place importante pour eux, qu'ils retourneront les voir, qu'ils prendront des nouvelles, qu'ils les soutiendront, etc. Je crois que là-dessus, maintenant, Halima, elle est quand même très rassurée de voir que Ryan va volontiers vers elle et qu'elle est une personne tout à fait importante dans sa vie. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui.
Ça va, vous y arrivez. Bon, et vous oubliez qu'on passe un message à madame.
Oui.
C'était quoi?
Juste pour un mapas et tout.
Pour voir la prochaine date, c'était ça?
Date et plus. Pour un truc, je ne me rappelle plus.
Bon, ben vous appellerez au secrétariat, on transmettra, vous savez bien.
D'accord.
D'accord, quand vous voulez.
Au revoir.
Au revoir. À dans 15 jours.
À dans 15 jours, au revoir.
Au revoir,
la petite.
Au revoir. Au revoir, bon retour.
Merci.
Tiens, tu fais tout seul.
Alors, on retrouve Ryan. Oui. On était avec sa maman tout à l'heure. Oui. Et là, on est avec vous, Sébastien. Vous êtes son papa.
Oui.
Comment vous avez vécu, vous, le moment où on vous a dit que Ryan allait devoir être placé dans une famille d'accueil ?
Indifféremment. C'était trop dur pour moi. J'étais même... c'était une dame. Elle est partie. Elle était du LASE. J'ai pas été violent, mais j'ai failli, j'étais trop énervé. J'ai dit non, Ryan, il bougera pas de l'hôpital, il va rester avec nous, tout et tout. Pour moi, c'était un déchirement.
Aujourd'hui, là, on est au placement familial. Ryan, vous le voyez combien de fois dans le mois?
Deux fois dans le mois et pendant 4 heures. Pour moi, c'est peu, enfin, c'est trop peu. Mais on m'a dit que ça va évoluer. Vu que ça se passe bien avec Ryan, on fait beaucoup de sorties, tout et tout. Là, il est parti à la FNAC, justement. Monsieur, vous voulez ses livres, alors j'ai ses livres.
Eh oui, j'allais vous dire, on vous a vu tout à l'heure partir les mains vides, et là, vous êtes revenu les mains pleines. Tu nous dis, Ryan, un peu, qu'est-ce que vous avez acheté à la FNAC?
Des livres, et puis c'est tout.
Et McDo.
Et oui, McDo.
Je t'ai donné ta carte Navigo?
Non.
Et si je t'ai donné, Ryan? Regarde.
Oui.
Non, mais il est dehors, ouais.
Non, viens.
Allez. Je t'aime très fort, d'accord?
On
se dépêche. Après, tu vas le faire ton train, tu vois.
Mon train, bah, il y en a plein.
Tiens, fort. Merci. On y va. Donc là, Ryan, il a un train à prendre à midi. Il habite assez loin, presque... 90 km. Donc aussi, les trajets, c'est pas rien hein, quand ils viennent en visite. C'est un vrai investissement de temps et...
Bonjour. Il y a tout ça.
Ça fait exprès, ça vous fait rire.
Sébastien, là, Ryan vient de repartir avec son assistante familiale. Ces moments de séparation, là, vous les vivez comment?
Au début, très mal. Là, mieux quand même. Parce que je sais que ça va évoluer, les visites. Donc, moi, on m'a toujours dit de rester calme, de prendre son temps. C'est que ça va arriver, que Ryan, je pourrai un jour sûrement récupérer Ryan, j'espère, en tout cas. Voilà. Thank you. c'est comme un rêve, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je veux qu'on soit tout le temps ensemble. Voilà.
Ce matin, au placement familial, la réunion porte sur la situation d'une jeune fille qui vient de leur être confiée. Autour de la table, des éducatrices spécialisées, des psychologues, une assistante sociale, une art-thérapeute, une secrétaire et un cadre éducatif.
Ce qui peut jouer aussi, je
Anne,
pense, mais pas que.
L'éducatrice présente l'histoire de la jeune fille placée et évoque voilà. Les premières pistes de travail.
Donc voilà, quand j'ai fait un point avec le CMP, donc c'est une petite fille qui est suivie là-bas depuis 2 ans et demi. Depuis ces 2 ans et demi, suite à un signalement de la crèche pour carence globale, on va dire, alimentaire, physique, éducative. Un primo-placement, elle vivait chez sa mère seule. Le père n'est pas existant, parce que madame ne reconnaît, enfin, elle le nomme géniteur, donc n'est pas existant. Madame était très douée dans tout ce qui était administratif, gestion administrative, et tout ce qui était, vie quotidienne de l'enfant, besoin, c'était très compliqué, carencé.
Juste ménage.
Oui, bon, je vais pas venir là-dessus. Effectivement, le logement est dans un état très, très insalubre, avec beaucoup de nuisibles. Quand le sage en fait a demandé le placement, puisque madame en fait ne suivait pas malgré toute la mise en place, donc il y a eu ce placement qui a été mis en place. Il y a des difficultés alimentaires. C'est une petite fille qui ne mange pas, elle fait 22 kilos, assez chétive. Donc c'est vrai que pour la faire manger, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle a tendance à ne pas manger à la cantine. Moi, quand je vais la chercher les lundis, elle me dit qu'elle a pas faim, elle a mangé juste de l'eau et du pain. Donc souvent, elle peut faire des malaises dans la piscine ou dire qu'elle a mal, elle a mal à la tête. Enfin, donc ça, c'est un sujet où on va voir avec après le bilan de santé, mais voilà, besoin éventuellement de compléments alimentaires ou de choses hein, qui vont la nourrir au-delà de ce qu'elle peut manger. On est sur 2-3 bouchées.
Alors,
c'est pas vraiment de l'encoprésie. Moi, j'appellerais pas ça parce que j'ai fait un long point avec la psychologue donc, qui l'a su au CMP. On est plus sur des fuites de sel parce que de l'encoprésie, ce serait vraiment tous les jours. Voilà. Donc là, on est plus sur quelque chose de psychique avec des fuites qui vont apparaître régulièrement. Il y a eu un épisode, 2 épisodes, où ça a été très compliqué. Un premier épisode où elle a retrouvé 21 culottes cachées. Dans son lit, sous son lit, souillé, et effectivement. Donc, c'est pas vraiment des gros sels, c'est des traces au départ. Donc voilà, on a essayé d'accompagner. Elle ne savait pas se laver, elle n'avait pas la notion de se laver aussi. Donc, ça, madame, je lui ai dit, voilà, on a essayé un petit peu tranquillement qu'elle puisse rester dans la salle de bain, lui montrer comment se laver, où sont les affaires, les gants. Quand elle a des affaires souillées, on les met à part, on va les laver tout de suite. Voilà, il y a des choses. Elle lave ses culottes elle-même, il y a un peu des choses comme ça. Alors, il y a des vagues où pendant la semaine, il va y en avoir. Pendant 2 semaines, il n'y en a plus. Après, ça revient. Donc, moi, je dirais pas que c'est vraiment de l'encoprésie. Là, ce que dit la psychologue, on est plus sur des choses psychologiques. Un problème de...
C'est pour ça que c'est pas de l'encoprésie.
Oui,
non.
En réalité, l'encoprésie, c'est aussi quelque chose qui échappe au contrôle du corps. Un corps qui est béant. Et on voit bien qu'en cas de stress, bien évidemment, la fragilité narcissique réapparaît et la béance est là, quoi.
Claire-Marie, psychologue.
Donc c'est quand même de l'encoprésie. Ouais, ouais. Même, il y a plusieurs degrés de gravité.
Oui,
je pense que c'est plutôt ça qu'il faut dire. Mais elle a bien un problème d'enveloppe corporelle et de béance de l'enveloppe corporelle.
Totalement. Donc, moi, j'avais juste une question. Est-ce qu'il y a des accidents à l'école et à la gym?
Non, justement, à l'école, il n'y a pas d'odeur, pas d'accident, pas de ce type de problématique. Et à la gym, non plus.
Et on a appris un truc hyper important hier de la bouche de la mère. C'est que quand elle a acquis la propreté,
ouais.
Donc, elle a arrêté de lui mettre des couches, je ne sais plus l'âge exact, mais en tout cas, elle a arrêté de lui mettre des couches en journée. Mmh. Elle attendait d'être chez elle le soir, que sa mère lui mette une couche pour faire ses selles.
Okay. Oui, mais oui, parce qu'elle ne voulait pas utiliser les toilettes de la maison tellement c'était un endroit sordide. Donc elle nageait jamais aux toilettes chez elle.
Il fallait qu'elle passe dans la couche.
Donc le seul endroit propre, c'était la couche. Et moi, quand j'ai vu le format de cette petite fille, ça m'a fait penser à ce qu'on appelait un anisme par souffrance psychologique. Hein. C'est-à-dire une croissance qui ne se fait pas parce que le contexte familial donne une telle souffrance que l'enfant n'a pas envie de grandir et n'arrive pas.
Je ne sais pas que ça va marcher pour... Mais un des trucs qui avait fonctionné pour... C'est qu'il avait l'assiette avec ce qu'il mangeait habituellement.
Bastien.
Donc genre de l'eau et du pain, si elle mange de l'eau et du pain.
Éducateur spécialisé.
Et une assiette avec ce que mangeait la famille. Et c'est par limitation qu'en fait il a fini par manger comme mangeait la famille d'accueil.
Enfin, s'ils ont des spécialistes pour d'abord enlever tous les troubles
somatiques. Que ce soit pas un trouble bactérien.
Donc, parce qu'on suspectait quand même une agression.
Parce que ça fait penser à des fuites, on va dire. Donc, on ne sait pas s'il y a eu un incident. Voilà, on ne peut pas minimiser qu'il y a pu y avoir une agression. Voilà. On questionne ça. Pour l'instant, en tout cas, ça n'est jamais remonté ni au CMP, ni dans les structures. Madame. A priori, ce ne serait pas elle. Elle ne fréquente très peu d'hommes. Elle fait venir très peu d'hommes à domicile. La psychologue, elle semblait dire de la grand-mère qui pouvait être violente ou avoir des gestes violents avec. Donc, est-ce qu'il aurait pu y avoir quelque chose aussi même plus jeune? On ne sait pas. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est d'enlever tout le somatique et d'aller voir un gastro-entérologue. Okay. Et après, donc, voir une fois qu'elle aura vu ce spécialiste, est-ce que c'est vraiment somatique ou est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Donc ce qu'on a pour l'instant, moi je t'ai envoyé un mail parce que dans l'idéal, je vais démarrer les visites médiatisées la deuxième semaine des vacances de décembre. Donc à partir du 29, donc je voulais voir. Dans l'idéal, je pense, ce serait bien pour évaluer, madame. J'aimerais bien évaluer le lien qui et l'ambiance aussi de la VM et de voir un petit peu dans les premiers temps que tu sois présente afin de voir après si on fait tout seul ou si on continue à deux.
Et du coup, entre Claire-Marie et toi, vous en avez parlé
J'ai envoyé qu'à Sarah, parce que j'avais beaucoup sollicité Claire-Marie pour...
Alors déjà, cet après-midi, on va ensemble.
T'es replongée là-dedans, tu vois.
Oui. Bon. Non, mais ça doit être absolument fait en décembre, ou on peut la décaler sur des journées.
Vas-y, ma chère, à tout à l'heure.
Nous quittons la réunion pour rencontrer Aïcha.
Pour s'entretenir.
Assistante familiale qui accueille des enfants placés pour leur apporter protection et éducation.
T'as pas quel mouchoir dans ta poche?
Non.
La cherche, si. Non, plus rien, tiens. Ah oui, viens, tape. Quand je suis venue ici, j'avais pas de famille. Je suis la seule de la famille que je suis venue ici mariée déjà. Je me suis mariée là-bas au Maroc et mon mari, il est né ici. C'est un garçon qui est né ici. Après, on avait des enfants. Lui, il était déjà éducateur à la Côte d'Or. Non, ma chérie, viens par là. Il y avait une voisine qui était à côté de chez moi. Je l'ai vue comment elle travaillait avec la ZE. Après, j'ai fait l'assistante maternelle. J'ai fait assistante maternelle. C'était la puéricultrice qui m'a proposé de faire ce travail. Elle m'a proposé, pourquoi vous ne faites pas ça? Moi, je dis, mais comment je peux m'occuper d'un enfant 24 heures sur 24, séparé de ses parents? Je ne sais pas comment je dois faire. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir. J'ai posé ma candidature. Ils m'ont accepté tout de suite. Ils m'ont accepté. Ils m'ont proposé déjà une fratrie. C'était un peu difficile. Les enfants, ils étaient adorables, mais ils étaient poussés pour voler. Ils m'ont volé plein de choses. La fille, après, ils ont fait monter la tête pour qu'ils font des fugues. Quelquefois, je passais la nuit au commissariat. Après, ils sont partis. C'est la maman qui a récupéré les deux. Et ils m'ont placé Marouane. J'ai accueilli Marouane et le village un an.
Aïcha, ça fait 25 ans que vous faites ce travail.
26 ans.
26 ans que vous faites ce travail. Et Marouane, qu'on va voir tout à l'heure, qui a aujourd'hui 19 ans,
oui.
Ça fait 18 ans qu'il est chez vous. Vous le considérez comment, Marouane?
Mon fils. Vous allez le voir. Il est adorable.
Bonjour.
Hein, il est là.
Donc, vous avez 19 ans. Ça fait 18 ans que vous êtes confié à Aïcha. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu Comment ça se passe pour vous d'être accueilli par une assistante familiale depuis 18 ans?
Alors moi, j'ai eu la chance du coup d'être tombé dans cette famille d'accueil-là qui, aujourd'hui, je le ressens comme une famille à part entière. Donc elle m'a apporté tout ce dont j'ai eu besoin dans mon enfance et aujourd'hui.
Je peux vous demander ce que vous faites comme étude?
Je fais un bachelor en génie électrique et informatique industrielle.
Vous avez une idée de ce que vous aimeriez faire plus tard?
Ingénieur en aéronautique. Du coup, par la suite de ces 3 années, intégrer une école ou un master. Quand je vois mes parents, je me dis que j'ai ces liens encore qui sont présents, mais grâce à elles, j'ai pu me développer dans une famille normale. En fait, aujourd'hui, c'est comme ma mère. Oui, c'est elle ma mère et en soi, c'est un fait. C'est elle qui était là quand j'en ai eu besoin. Mes parents, après, ils peuvent pas être là malheureusement, mais c'est elle que j'ai trouvée quand j'en avais eu le plus besoin, c'est ça en fait, qui fait qu'aujourd'hui on a ce lien très 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 proche et je l'aime comme une mère.
C'est la chambre à qui?
Moi.
Même quelquefois, je joue avec eux. Si j'ai rien à faire, on joue. Déjà, elle, quand elle est arrivée, elle ne savait pas habiller une poupée. On a commencé à coiffer la poupée, à l'habiller. Quelquefois, elle me dit, je l'amène avec moi à la douche. Elle m'a dit, je lui dis, on parle comme ça de shampoing, tu mets pas le shampoing sur ses yeux, c'est ça. Mais pour qu'il apprenne qu'il fait pas du mal aux autres, qu'il apprend à jouer aussi et à s'occuper aussi. Mais elle est contente, elle fait beaucoup de choses avec les poupées. Et chaque poupée, elle a un nom, son prénom. Je suis veuve, ils sont chez moi, ils sont avec moi, ils me soutiennent, ils m'aiment, je les aime, je donne beaucoup de choses et je reçois beaucoup de choses. Je ne sais pas, les gens qui ne trouvent pas vraiment ce travail est difficile, pour moi non.
Là il est 4h, bientôt 10.
Oui.
L'école, elle est loin? Vous y allez à pied?
Oui, juste à côté, pas loin. C'est 10 minutes à pied. Viens, on va passer par la semi. Mais tu n'utilises pas la trottinette. Allez, viens. Regarde. Sinon, tu vas tomber.
Bravo.
Bravo, Titoute.
Elle
écoute. C'est lourd. Là-bas.
Mon diable.
Bon, attention si tu tombes, fais attention. Allez, vas-y.
Tu as crié, je lui dis non, ton père n'a pas crié, mais j'entends que ça n'a pas été agréable pour toi. Donc elle a pu le dire et tout, et je lui dis, écoute, tu sais qu'on doit caler des sorties avec ton père, c'est sur le jugement.
Retour.
Ton père, il propose de faire une sortie
à la réunion,
acheter ton cadeau d'anniversaire,
du placement familial.
Que tu aimes le dessin, il te propose d'aller dans une boutique de beaux-arts.
Ça s'ajuste, hein, il s'ajuste vraiment à ses besoins.
Rapidement, on a fait le bilan psychomote hier avec la psychomote de l'UPPS. En gros, on a fait le bilan. Il y a 2 choses. Il faut qu'on prenne rendez-vous chez un docteur des pieds, un orthopédiste, parce qu'il a les pieds plats et ça peut avoir une incidence sur la chaîne posturale, qu'il faut qu'on continue le suivi avec l'orthoptiste parce que le fait qu'il voie rien d'un œil, ça peut jouer.
Bastien, éducateur spécialisé.
Potentiellement, il va falloir qu'on fasse un bilan avec un neuropédiatre parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'explique pas sur les temps de réaction différés du côté gauche, sur les réflexes, etc. Il y a un truc qui la questionne. Le fait est qu'il faut un suivi en psychomote et quand même, un des trucs, moi, qui me questionne, c'est qu'elle m'a parlé de suivi hebdomadaire. Jusque-là, j'entends. Elle me parle aussi, d'une très grande fatigabilité de... Et en fait, là, le gamin, il a des rendez-vous tout le temps. Et oui, je comprends que c'est important, les suivis, etc. Mais en fait, on parle d'un gamin qui voit rien, qui a un patch 12 heures par jour. Est-ce qu'on lui met deux rendez-vous thérapeutiques dans la même semaine ou est-ce qu'on alterne? Enfin, c'est une vraie question sur la fatigabilité des enfants, quoi.
Quand tu dis il a des rendez-vous tout le temps, il a la psychomote.
Je te fais la liste. Il a, à l'heure actuelle, la psychothérapie 45 minutes une fois par semaine. Un rendez-vous toutes les 3 semaines avec l'AF et une thérapeute à l'UPPS. Tous les 15 jours, ophtalmo. L'école, bien sûr. Une fois tous les 2 mois, la visite avec son père. Du coup, la psychomote qui viendrait se rajouter...
On a eu le
ouais, mais d'un autre côté, tous les professionnels s'accordent à dire que le gamin est hyper fatigable.
Oui, mais ça c'est probablement accentué par son cache à l'œil.
Oui, mais le cache à l'œil, ça reste une demande. Et en fait, on en a pour minimum 2 mois. En vrai, il va pas récupérer la vision au maximum de ce qu'il pourra au bout de 2 mois. Moi, je suis pas sûr de réussir à joindre l'orthoptiste et d'avoir gain de cause sur le fait que c'est trop et que ça le frustre et que c'est compliqué et machin et truc. Donc en fait, je sais pas. Enfin, c'est une vraie question.
Il est à l'orthoptiste une fois par semaine ?
Tous les 15 jours. Voilà, tout en sachant, et on peut conclure là-dessus, que j'ai eu l'administratrice ad hoc qui a été nommée, qui a l'air très bien, qui a nommé une avocate pour défendre donc au pénal contre sa mère. Donc il y aura aussi un rendez-vous avec l'avocate. Je sais pas encore quand, mais c'est une avocate qui... préfère rencontrer les enfants parce que c'est mieux pour défendre les gens quand on les a rencontrés.
Ah, voilà. Tout arrive.
C'est une spécialiste droit des mineurs avec qui l'administratrice a l'habitude de travailler. Voilà.
Alors, je reviens un petit peu en arrière. Sur la psychothérapie, qu'il y a quelque chose qui se met en place, ouais, ou est-ce que il est en faux self? Parce que parle bien quand même. Donc qu'est-ce qu'il pourrait...
Là, on a entendu un terme, le faux self. Vous nous expliquez ce que ça veut dire ?
C'est une question sur laquelle on revient souvent en placement familial parce que dans la construction du tout petit, si à un moment donné, il y a
Claire-Marie, psychologue.
Comment dire, il y a un manque tel d'ajustement entre les besoins du bébé et l'adulte qui lui donne les soins, il se crée une espèce de coupure dans son esprit qui est encore très immature, de façon à pas être détruit, parce qu'il est dans un sentiment de destruction imminente. Et donc, à côté de ça, au lieu d'avoir un maternage normal, il va finir, s'il a les moyens, par se materner par son intelligence et se construire un faux self. Et ce sont des enfants qui vont s'exprimer très bien et qui, pendant longtemps, vont pouvoir passer entre les gouttes et passer inaperçus, y compris en thérapie. Nous, on s'en est rendu compte devant l'échec de certaines thérapies, des enfants qui allaient très mal, qui étaient suivis en psychothérapie, et les thérapeutes nous disaient « en ce moment, ça va bien, on pourrait arrêter ». Et donc là, on a été confrontés de façon extrêmement violente parce que nous, on connaissait le quotidien de l'enfant. On savait, par exemple, des altercations très violentes qu'il y avait eu à l'école ou des comportements particulièrement difficiles à gérer dans la famille d'accueil. Et on voyait qu'il y a quelque chose qui, même en thérapie, était extrêmement difficile à atteindre. Bon, le faux self, je crois que le premier qui en a parlé, c'est Winnicott. C'est vraiment quelque chose qui se construit très précocement dans le psychisme d'un enfant qui est où l'accordage avec la mère se fait mal ou se fait pas. Donc c'est quand même grave parce qu'il y a une partie de lui qui devient inaccessible, y compris à lui-même. On peut dire que c'est un mécanisme défensif extrêmement d'adaptation pour survivre, mais qui en même temps empêche de vivre. C'est les deux. Je dirais, il n'y a pas d'accès au moi, il n'y a pas d'accès au sujet, tout ça est coupé. Et travailler ça en thérapie, c'est extrêmement difficile.
Les enfants placés, dans leur grande majorité, le sont sur décision du juge. Il arrive que certains parents, conscients de leurs difficultés, décident de confier leur enfant à l'aide sociale à l'enfance. Asma, que nous avions rencontrée dans l'épisode précédent, nous raconte les raisons qui poussent une mère à prendre une telle décision.
Alors lorsque je l'ai eu, franchement, ça a été le plus beau cadeau. J'y m'y attendais pas du tout. Au départ, tout se passait bien, mais il y a eu des facteurs qui n'allaient pas dus à mon enfance. Et certaines choses revenaient à la surface. Et j'estimais que si je n'allais pas bien, justement, elle n'irait pas bien. Moi, on m'a créé quand même des traumatismes lors de l'enfance. Et j'estime que ce n'est pas justement à ma fille d'en payer les conséquences.
C'était quoi ces traumatismes ?
Alors, à 16 ans, j'ai été victime d'attouchement. À 17 ans, j'ai été violée. Je ne vais pas préciser qui. Et puis, en fait, ça n'allait plus trop dans ma famille, les parents. Voilà, avec le temps, vous savez, il y a la crise d'ado. Quand on n'arrive pas à se faire comprendre ou les parents ne veulent pas forcément comprendre ou ouvrir les yeux, il y a quand même des disputes, des histoires, on s'emporte vite. Voilà, à un moment donné, mes parents en ont eu marre et ils m'ont abandonnée. J'étais à droite et à gauche, j'ai connu des hommes qui me disaient « t'inquiète, allez, viens ». Voilà, au final, sur le coup, au départ, ça se passe bien. Et quelques heures plus tard, bah, je tombais toujours sur le même type de personne. « Bah écoute, j'ai envie de toi, allez, viens, on couche ensemble ». Et quand je disais non, bah quand même, j'ai du respect, quoi, je me respecte. Et bah c'était tout de suite « ok, bah tu sors de chez moi », c'était des choses comme ça. Donc il s'avère que je me suis amenée à me retrouver dans des hôtels, histoire de rebondir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma fille, malheureusement, son père n'a pas souhaité la reconnaître, donc je l'élève seule. Par la suite, je m'étais mariée, religieusement, avec un homme pour lequel j'avais tout quitté, donc c'était le beau-père de ma fille. Sauf qu'au petit à petit, vous savez, tout est beau, tout est rose dans un couple. Et petit à petit, il y avait eu quand même de la violence conjugale, violence psychologique, ce qui a fait que ça a joué encore plus sur mon état. C'était, par exemple, oui, sans moi, tu n'es rien. Si on se sépare, je ferai en sorte qu'on te retire ta fille. Je ferai en sorte, en gros, que je dise que tu la maltraites. C'était vraiment des choses horribles et ça jouait effectivement sur la psychologie. C'était très compliqué à ce moment-là et je m'étais dit que je ne pouvais pas élever ma propre fille dans ces conditions-là. Ce que j'ai pris la décision la plus déchirante et à la fois la plus courageuse, c'est de demander de l'aide, c'est-à-dire de placer mon enfant. Vraiment, j'ai contacté les professionnels et justement, c'est vrai que la séparation, elle a été quand même très très déchirante entre ma fille et moi. Je me rappelle qu'elle pleurait de mon côté aussi. J'ai tenté de lui expliquer et avec le temps, voilà, on s'y est fait. On sait très bien pertinemment qu'on va se revoir. J'estime que c'est quand même important de le préciser à un enfant. Et puis, avec le temps, elle a pu créer des repères avec sa famille d'accueil. Tout le monde s'entend bien.
Quand vous la confiez à l'aide sociale à l'enfance, vous savez pour combien de temps vous allez la confier ?
Alors, malheureusement, non. Parce que voilà, c'était en fonction de mon état et d'autres problèmes assez personnels dont je ne veux pas préciser. Mais voilà, mon état de santé, je sentais bien que ça allait pas, ça dégradait. Il a fallu quand même un an et demi de travail. C'est énorme. Voilà, j'ai presque pratiquement tout raté au niveau de l'évolution de ma fille. Mais j'ai pu quand même voir certaines choses. Mais il est vrai que c'est pas pareil lorsque vous êtes au quotidien avec votre enfant. Je me suis toujours dit que j'allais ne pas faire les mêmes erreurs que mes parents. c'est-à-dire faire l'inverse, dire des je t'aime, parce que j'entendais rarement les je t'aime, mais c'est quand même important d'entendre un je t'aime, surtout venant des parents. Je m'étais dit, j'allais jamais abandonner ma fille, peu importe ses bêtises, peu importe, voilà, je l'assume. Et du coup, oui, j'essaye de reproduire effectivement ce que mes parents n'ont pas forcément réussi à faire. J'avais eu une discussion avec eux. Maintenant, avec du recul, je peux comprendre. Ils étaient à bout. Entre les disputes, l'incompréhension, ils étaient à bout. Ça n'excuse en rien. Mais à l'heure actuelle, on a décidé pour le bien de tout le monde de repartir sur de nouvelles bases. Après, à l'heure actuelle, ça se passe bien.
Et là, la prochaine étape pour vous, l'avenir avec votre fille, comment vous le voyez ?
À l'avenir, je vois que du positif, vraiment, parce que mon état s'est stabilisé, je prends un traitement, j'ai quand même un suivi, donc il s'est nettement stabilisé, ça va beaucoup mieux. Et le lien, en fait, ce qui est étonnant, c'est que le lien entre ma fille et moi est toujours là. C'est vrai que quand je l'ai placée, c'est ce dont je craignais. J'avais peur qu'elle le prenne comme un abandon. Il y avait la culpabilité, il y avait le regret. Mais j'étais étonnée, à la fois j'étais contente de voir et de constater que le lien est toujours aussi fusionnel.
Dit que maman bénéficiera d'un droit de visite en présence d'un tiers une fois par mois et d'un droit de sortie libre. Là, c'est sorti en sortie libre samedi avec le taxi chez maman. D'accord ? Donc ça, c'est ça. Et après, pour papa, il a aussi un droit de visite en présence d'un tiers une fois par mois et qui pourra évoluer. Donc du coup, ça veut dire que si on voit que ça se passe bien, on pourra faire une demande au juge pour que tu puisses voir plus papa. D'accord ? Ok, ça te va, tu as compris.
Le VM, je le vois direct, je le vois tout le temps.
Oui, oui, en VM. Et là, c'est pour que ça évolue après sur des sorties libres comme maman. D'accord ? Ok ? Tu comprends ou pas ?
Oui.
Si on voit que ça se passe bien, on fera une lettre au juge et puis on lui demandera si on peut augmenter les visites.
D'accord.
Ok. C'est pour ça que c'est important que tu nous dises si ça se passe bien ou pas quand tu vas avec papa et maman.
Bah, ça se passe tout le temps bien.
D'accord. Bah, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais il faut que tu y ailles plusieurs mois. C'est pas que sur 3-4 visites qu'on peut voir. D'accord ? Ok, ça te va ?
Karine Rivière, chef de service.
C'est important qu'il n'y ait pas de secret, parce qu'il y a beaucoup de notions de secret dans les familles, et du coup, c'est important que nous, on soit complètement transparents sur ce qu'on fait, sur les notes qu'on peut écrire au juge, pour que les enfants, ils sachent et qu'ils n'ont pas l'impression qu'on leur cache des choses tous les jours. C'est important pour qu'on puisse travailler avec eux en confiance. S'ils n'ont pas confiance en nous, on ne peut pas travailler avec eux.
Si ?
Non ?
Mais moi, j'ai plus mal.
Mais oui, mais le médecin, il a dit qu'il faut faire encore. Exactement. Ça tombe bien parce que ça tient pas. Est-ce qu'on choisit un livre ?
La journée s'achève à la maison d'enfants. Pour les petits,
t'as le droit d'écouter l'histoire, hein ?
C'est bientôt l'heure du coucher.
Je te mets sur le bout du lit, s'il te plaît. Ça, c'est le moment calme. C'est le moment avant d'aller se coucher. On fait calme.
On écoute ? Lily joue à la poupée. Regarde, Lily joue avec sa poupée. Elle la promène au parc dans son landau, car il fait beau. Elle est où, Lily ? Montre-moi, Lily. Ouais. Elle est accompagnée de ses deux petits chats, Léon et Poupette. Écoute les petits oiseaux chanter, dit-elle à son bébé. Lilou a mis un bavoir à sa poupée. Elle s'est installée bien comme il faut. Chut, mon bébé, arrête de pleurer. Voilà ton biberon. Il n'est pas trop chaud. Bois doucement et après tu feras un petit rot. C'est l'heure du bain. Lilou a tout préparé et même vérifié que l'eau n'était pas trop chaude. Elle dit doucement à sa poupée en la glissant dans l'eau. N'aie pas peur, mon bébé. Maman te tient bien la tête pour faire ta toilette. Lilou a changé la couche de son bébé, qui était tout mouillé, car il avait fait pipi. Voilà, mon petit bébé, c'est fini. Tes petites fesses sont toutes propres et bien au sec. Lilou a couché sa poupée et a fait tourner son mobile. Elle lui dit tout en la berçant. Chut, ferme tes yeux, mon petit bébé. Il faut dormir maintenant. C'est fini. C'est fini l'histoire. Dans quoi est-ce que Lilou, elle a promené son bébé au parc? Qu'est-ce que c'est ça?
Une poussette?
Dans sa poussette. Est-ce qu'on donne du lait à un bébé?
Oui.
Et pourquoi on doit changer la couche du bébé?
Parce que c'est caca et pipi.
Ah, donc pour qu'il ait les fesses propres alors?
Oui.
C'est pour ça?
Alexia, une petite fille, a choisi une histoire d'une petite fille qui s'occupe d'un bébé, la maman qui lui donne des conseils. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a quelque chose? C'est le hasard? Ou c'est aussi un outil pour vous? Il y a un message qui passe quand vous lisez des histoires comme ça?
Hasard ou pas, je saurais pas vous dire parce que les histoires, elles peuvent changer chaque soir. Après, ça peut ne pas être anodin qu'elle choisisse ce livre-là parce que pour le coup, elle, aujourd'hui, elle aurait dû voir sa maman et la visite a malheureusement été annulée. Donc, c'est peut-être pas que du hasard, mais c'est un outil. C'est un outil de médiation qui nous permet de travailler sans qu'on se soit dans quelque chose de très direct. Donc une petite fille qui a pas vu sa maman alors qu'elle aurait dû voir sa maman et qu'elle attendait cette visite depuis un certain moment et qui choisit une histoire d'une petite fille qui s'occupe d'une autre poupée, non, je pense pas que ce soit un hasard. Mais du coup, prendre soin, c'est aussi une façon peut-être pour elle de nous demander de prendre soin d'elle dans cette situation qui est un peu compliquée. Ouais. Dans toutes les histoires, il y a les mamans, les papas qui existent et il faut qu'on les fasse vivre aussi. Ils sont placés parce que les parents, effectivement, ont eu des faits qui ont été jugés dangereux pour laisser les enfants à leur domicile, en tout cas par un juge, mais ça les enlève pas à leur histoire. Donc faire vivre maman et papa, c'est aussi les reconnaître dans leur histoire.
Donc ici, on accueille des enfants qui sont placés, confiés à l'aide sociale à l'enfance, puis placés ici,
ouais,
pour des faits graves de maltraitance, de négligence ou de carence.
Exactement.
Comment, en tant que professionnel, on fait abstraction quand on a les enfants en face de soi de ce qui leur est arrivé?
Généralement, quand les enfants ils arrivent, on est forcément un petit peu au courant des raisons du placement parce qu'il y a des choses qui sont inévitables et dont on doit être au courant pour pas biaiser notre travail ou faire d'un père un parent qui est décédé par exemple. C'est important qu'on soit au courant pour pas dire de bêtises, si je peux dire ça comme ça. Quand on est éducateur du quotidien, c'est aussi faire abstraction entre guillemets de leur souffrance pour pouvoir continuer à avancer. On est avec des enfants qui effectivement ont des histoires de vie compliquées. On va faire attention, mais on peut pas non plus faire que attention à ça parce que sinon c'est les laisser dans leur histoire. Ils sont victimes de cette histoire, ils sont pas acteurs de ce qui leur arrive. Donc les faire avancer en le prenant en compte, mais en les aidant à dépasser ce qui s'est passé, c'est aussi les faire évoluer et les aider à grandir. Tu as ton histoire, mais ton histoire, ce qui t'est arrivé, ne fait pas de toi la personne qui te définit. Donc, on travaille avec nos émotions. L'idée de travailler en équipe pluridisciplinaire, c'est aussi nous pouvoir, pas devant les enfants, mais faire part avec nos collègues de ce qui, des émotions qu'on peut ressentir par rapport à ça. On reste des humains, c'est tout à fait normal, mais c'est de pouvoir faire ce pas de côté et d'en parler le plus possible les uns avec les autres pour pas que ce soit les enfants qui perçoivent nos émotions et que ça les mette eux en difficulté.
Peppa Pig?
Ouais.
Peppa Pig va à la mer.
Le bateau à voile de Peppa Pig. Peppa et George passent le week-end chez Peppa et Mamie Pig. Papy Pig leur lit plein d'histoires de pirates, d'îles au trésor et de bateaux. Est-ce que tu es un pirate toi aussi, papy ? Demande Peppa. Bien sûr que non, répond Papy Pig. Pourtant, toi aussi tu as un bateau. C'est juste pour me promener sur l'eau, sourit Papy. Cela donne une idée à Peppa. Tu nous emmènes en promenade en bateau ? Demande-t-elle. Maintenant, répond Papy Pig, c'est que je dois aller arroser mes framboisiers. S'il te plaît, s'écrie Peppa. Bon, c'est d'accord, dit Papy. Mais il faut d'abord nous préparer. Enfiler ses gilets de sauvetage, c'est obligatoire sur un bateau. Papy, Peppa et Georges se rendent au port. Oh, il y a même des maisons pour les bateaux, s'exclame Peppa. Ce sont des hangars, répond Papy. C'est là qu'on met les bateaux et ils ont besoin d'être réparés. Mais bon bateau à moi, il va très bien. Il est où, Papy ? Ouais, bravo. On va partir à la découverte des îles désertes, s'écrie Peppa. Oh, comme c'est joli, s'exclame Peppa, en découvrant les voiliers colorés amarrés au port.
Il y a des enfants qui reviennent vous voir ?
Ouais.
Ouais, ouais. C'est plus au niveau des ados, parce qu'il y a une facilité, il y a le téléphone, ils ont les contacts de certains éducateurs, mais on a beaucoup d'enfants qui reviennent et qui repassent devant la maison d'enfants, qui demandent à rentrer, à revoir certains éducateurs, certains enfants. Et c'est pour certains un repère, c'est le repère qui a été le plus stable à une époque de leur vie. Effectivement, il y a des enfants qui ont été placés 10 ans, donc qui repassent souvent. Mais on a aussi des fois des gens qui ont été placés dans les années 80, dans les années 90, et qui ont besoin de repasser devant la structure, alors qu'il n'y a plus aucune personne qui travaille. Mais c'est symbolique, ça a été leur maison à un moment donné. Donc, revoir ça, la maison de son enfance, ouais.
C'était Protection de l'enfance, des histoires du quotidien. Troisième épisode, Grandir ailleurs. Avec Alexia, éducatrice spécialisée, et Karine Rivière, chef de service de la maison d'enfants à caractère social de l'association OSER. Anne et Bastien, éducateurs spécialisés, et Marie-France, psychologue au service de placement familial de l'association OSER à Paris. Aïcha, assistante familiale. Merci à Alima, Sébastien et leur fils Ryan. Merci également à Asma. Mixage Guillaume Ledu, chargé de programme Marie-Bonne Abolivier et Anaïs Morales, coordination Emmanuel Laurentin, un documentaire de Xavier Naud réalisé par Thomas Duterre. Retrouvez-nous sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.